C'est l'hiver. Il fait très froid. Et sur les eaux gonflées du Niagara flotte le corps d'un mouton entraîné par l'impétueux courant. Du haut des nues, un aigle qui plane aperçoit la proie et fond sur elle. Les griffes plantées dans la laine du cadavre flottant, l'oiseau attaque son festin. Le courant l'entraîne vers les fameuses chutes de cette rivière, mais elles sont encore loin. Il a le temps de se rassasier. Le moment venu, il reprendra son envol. Quand l'abîme n'est plus qu'à quelques centaines de mètres, l'aigle décide qu'il est temps de quitter son repas flottant. Malheureusement pour lui, les éclaboussures des flots ont petit à petit gelé autour de ses serres. Et le voilà pris au piège, lié à la carcasse. L'aigle déploie ses ailes, les agite de toutes ses forces, de toute son énergie, mais rien n'y fait. Il est bel et bien pris au piège, lié, enchaîné au reste de son repas. Malgré tous ses efforts, l'abîme est maintenant là. Et voilà notre aigle qui plonge avec la carcasse dans l'écume bouillonnante des chutes du Niagara, dont il ne ressortira pas vivant. Il est des choses dans la vie qui attirent, séduisent, enchaînent et entraînent irrésistiblement vers une perte. Dimanche dernier, Albert nous a fait réfléchir à partir du psaume 116, psaume où il est question à plusieurs reprises de la délivrance de Dieu. Souvenez-vous, « L'Éternel garde les simples, j'étais devenu misérable et il m'a sauvé. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des pleurs, mes pieds de la chute. J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Oui, ô Éternel, je suis ton serviteur, le fils de ta servante, tu as délié mes liens. » La délivrance est un des thèmes majeurs de la Bible. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, est le Dieu des délivrances, le Dieu qui délivre, le Rédempteur qui rachète son peuple, le Sauveur qui le sauve, le Libérateur qui le délivre. Ce message de délivrance est incontournable dans l'Écriture. Mais de quoi? De qui Dieu nous délivre-t-il? Quelles sont les chaînes dont il nous a franchis? De quelle liberté parle-t-on? Vous l'avez compris, j'aimerais ce matin creuser un peu avec vous cette question de la délivrance dont parle la Bible. Un vaste sujet que nous n'épuiserons bien évidemment pas ce matin. Et j'aimerais commencer notre réflexion simplement avec l'évocation de quelques versets qui soulignent cette réalité, qui disent que notre Dieu, le Dieu de la Bible, est le Dieu des délivrances. Psaume 68, verset 21, « Dieu est pour nous le Dieu des délivrances ». On pourrait aussi traduire ici « le Dieu du salut » ou alors « le Dieu des victoires ». Et dans la plupart des versets que je vais citer, on peut interchanger ces mots qui sont synonymes très souvent dans l'Écriture. Psaume 32, verset 7. Tu es pour moi une cachette. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de cris de délivrance. Psaume 130, verset 7. Israël attend le Seigneur. Car c'est auprès du Seigneur qu'est la fidélité et la libération abonde. Auprès de lui. Ésaïe 12, verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Ésaïe 61, verset 1, le souffle du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Et vous savez certainement que ces paroles d'Ésaïe vont être reprises par Jésus au début de son ministère. Luc 4, verset 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Oui, notre Dieu est le Dieu du salut, le Dieu qui brise les chaînes, le Dieu qui appelle à la liberté et qui rend libre, le Dieu des délivrances. Oui, mais de quoi parle-t-on vraiment? Est-il toujours question de la même chose à chaque fois qu'il est question de délivrance, de libération, de liberté dans la Bible? Y a-t-il une ou plusieurs délivrances? Cette délivrance ou ces délivrances sont-elles physiques, matérielles et ou spirituelles? De quoi parle-t-on vraiment quand nous disons que notre Dieu délivre, qu'il est capable de nous délivrer? Quand nous regardons de près les différents textes où il est question de délivrance, nous arrivons vite à la conclusion que cette notion de délivrance dans la Bible recouvre bien des réalités différentes. Il y a des délivrances physiques, matérielles, circonstancielles, et des délivrances spirituelles, et parfois, et même souvent, les choses sont mêlées. La première délivrance dont j'aimerais parler ce matin est celle du péché. Le péché, c'est ce que nous faisons par nature et qui est contraire à la volonté de Dieu, la volonté de Dieu pour nous. Le péché, c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu. Le péché, c'est tout ce qui nous condamne aux yeux de Dieu. Ce péché au cœur de notre vie, de notre nature humaine, nous enveloppe si facilement, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. En réalité, il cherche à dominer notre vie comme un véritable despote. Ses liens nous enserrent, sa tyrannie nous oppresse. C'est pour nous affranchir du péché que Jésus est venu et qu'il a donné sa vie. C'est pour nous libérer de la tyrannie du péché et de son esclavage que Jésus est mort pour nous. Les paroles de Jésus dans les évangiles sont sans ambiguïté à ce sujet. Et ce passage est sans doute le plus emblématique de tous. Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire « Vous deviendrez libre » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Quiconque fait le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. » Le Fils lui demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Oui, le Fils nous libère du péché, nous en délivre. Comme dit cette belle louange à Jésus-Christ au début du livre de l'Apocalypse, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. par son sang et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour son Dieu et Père, à lui soit la gloire, la louange, le pouvoir à tout jamais. Libéré du péché. Non, ça c'est une autre histoire. Libéré du péché. Réellement libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le chrétien, le disciple du Christ, ne pèche plus? Est-ce que ça veut dire que le chrétien ne devrait plus pécher? Peut ne plus pécher? Si Christ nous a franchis du péché, pourquoi péchons-nous encore? Si Christ a franchi du péché celui qui met sa foi en lui, celui-ci n'en demeure pas moins encore pécheur, reste pécheur. Notre nature pécheresse ne disparaît pas quand nous acceptons le Christ par la foi. Ce qui se passe à la conversion, quand nous devenons enfants de Dieu, quand Dieu devient notre Père par Jésus-Christ, c'est que nous recevons une nouvelle nature, celle de l'Esprit de Dieu. Une nouvelle nature qui vient cohabiter, coexister en nous, aux côtés de notre vieille nature pécheresse. Et avec cette nouvelle nature, avec la présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie, nous devenons capables de choisir de marcher par l'Esprit et non plus par la chair. C'est cela l'affranchissement du péché dont nous parlons. C'est la liberté de ne plus pécher en faisant le choix de l'obéissance à Dieu, le choix de marcher par l'Esprit. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je peux dire non au péché. Je suis libre de ne plus pécher. Je ne suis donc plus esclave du péché. Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Quiconque fait le péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Cette liberté est donc l'alternative, est donc la liberté de l'alternative au péché, qui est l'obéissance à Dieu. Mais cette alternative n'est pas automatique. Rien dans ce domaine ne se fait sans notre consentement, ne se fait à notre insu, ne se fait sans que nous le voulions. La marche par l'Esprit est un choix que je dois renouveler sans cesse, que je dois renouveler jour après jour. J'ouvre ici une petite parenthèse pour poser la question du bien fait par les non-chrétiens. Comment, finalement, cela est-il possible puisqu'ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu? Comment était-il possible que nous fassions le bien avant de rencontrer le Christ? Cela est possible par ce qui reste de l'image de Dieu en chaque être humain, mais qui est bien insuffisant pour faire la volonté de Dieu. Je referme la parenthèse. La marche par l'Esprit de Dieu est donc un choix que je dois renouveler sans cesse. Et rien dans ce domaine ne se fait automatiquement. C'est ainsi que parfois, il nous arrive encore de marcher par la chair et d'accomplir les œuvres de la chair. C'est ainsi que parfois nous laissons encore le péché dominer notre vie. C'est ainsi que parfois nous pourrions dire les paroles de l'apôtre Paul aux Romains quand il écrit sur la réalité du péché dans sa propre vie, des forces du péché qui sont à l'œuvre en lui, dans sa chair, dans sa nature pécheresse, qui est aussi la nôtre. Et que dit-il? C'est un peu long, mais on va le lire. « Je le sais, dit-il, rien de bon n'habite en moi. c'est-à-dire dans ma chair, dans ma nature pécheresse. Car il est à ma portée de vouloir, mais non pas de produire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que moi je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le produis, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien, ce qui est à ma portée, c'est le mal. Car pour ce qui est de l'homme que je suis intérieurement, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois dans mon corps tout entier une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif, captif de la loi du péché qui est dans tout mon corps. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Il y a dans le chrétien une tension, un combat propre à ces deux natures, et qui fait que parfois, il accomplit encore les œuvres de la chair. Mais grâce soit rendu à Dieu par Jésus-Christ, qui nous libère de nos péchés. La libération du péché dont nous parlons n'est pas que la libération de son esclavage, de sa force, de son emprise. Ce n'est pas que la capacité de lui résister, c'est aussi la délivrance de sa condamnation. En nous affranchissant du péché, de sa domination, Jésus nous libère aussi de sa condamnation. C'est ainsi que l'apôtre Paul peut continuer tout de suite après ces versets que nous venons de lire au début du chapitre 8 ainsi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. En nous affranchissant du péché, Jésus a pris sur lui notre condamnation, la condamnation que nous méritions pour nos péchés. Lui, le juste, a pris la place des coupables et il a subi à leur place la condamnation qu'il méritait, la colère de Dieu qu'il méritait pour leur faute. Et c'est ainsi que Jésus nous délivre de la colère à venir, expression que l'apôtre Paul utilise au début de son épître aux Thessaloniciens. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire sur la délivrance du péché. On pourrait parler du pardon des péchés, par exemple, et d'autres choses encore, mais j'aimerais avancer vers notre deuxième point. En entrant dans le monde, le péché a apporté avec lui une multitude de conséquences néfastes dont la mort fait partie. La délivrance de la mort est la deuxième délivrance dont j'aimerais parler maintenant. À Adam et Ève, en parlant de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, Dieu avait dit la chose suivante. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. C'est ainsi par la désobéissance de nos premiers parents que non seulement le péché est entré dans le monde, mais aussi la mort. La mort physique et la mort spirituelle. La mort physique comme la traduction de la mort spirituelle. L'apôtre Paul écrit à ce sujet dans l'Épître aux Romains, « C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est passée à tous les humains parce que tous ont péché. » On discutera après, Ibrahim, si tu veux bien. Après, si tu veux. Merci. Nous sommes tous mortels. Mais ça, c'est pas un scoop, vous le saviez. Nous sommes tous mortels et il n'y a rien que nous puissions faire contre cela. Si nous ne pouvons rien faire contre cela, Jésus le peut. Et Jésus l'a fait. Par son œuvre parfaite accomplie à la croix de Golgotha, par sa mort et par sa résurrection, Jésus nous a non seulement délivrés du péché, mais il nous a aussi délivrés de la mort. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comment faut-il comprendre cette victoire? Pourquoi mourons-nous si Dieu nous a délivrés de la mort? Pourquoi sommes-nous encore mortels? Nous sommes ici devant la réalité de ce que les théologiens ont appelé et appellent le « déjà » et le « pas encore ». En Christ, nous possédons déjà tous les bienfaits de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection, tous les bienfaits de sa victoire. Et en même temps, nous ne les possédons pas encore complètement. C'est vrai dans beaucoup de domaines, et c'est vrai en particulier pour la victoire sur la mort. Et c'est ainsi que nous attendons la pleine réalisation de toutes choses quand Jésus reviendra établir définitivement son royaume. C'est ainsi que nous attendons la transformation glorieuse de notre corps mortel. C'est ainsi que nous attendons encore la pleine réalisation de la victoire du Christ sur la mort. Et ce jour-là, quand Jésus reviendra, ce jour-là, la mort sera engloutie dans la victoire parfaitement accomplie du Christ. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans son épître aux Corinthiens, ce fameux chapitre sur la résurrection. J'aimerais en lire quelques versets. Il dit, je vais vous dire un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Car elle sonnera et les morts se réveilleront impérissables. Et nous, nous serons changés. Il faut en effet que le périssable revête l'impérissable et que le mortel revête l'immortalité. Lorsque le périssable aura revêtu l'impérissable et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera accomplie la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. » Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, la mort a été vaincue à la croix, mais elle utilise pour l'instant encore son aiguillon jusqu'au jour où Jésus reviendra pour la détruire à tout jamais. Elle sera alors engloutie dans la victoire finale du Christ. Elle sera le dernier ennemi, comme le dit Paul dans ce même passage, quelques versets auparavant. Elle sera alors le dernier ennemi détruit par la venue de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, si nous sommes en tant que chrétiens déjà passés de la mort à la vie, comme le promet Jésus dans les évangiles à de nombreuses reprises, nous attendons encore l'accomplissement total et final de sa victoire. Nous possédons déjà la vie éternelle, mais nous en attendons encore l'avènement. La délivrance de Dieu par Jésus, c'est donc la délivrance du péché, mais aussi de la mort. De la mort spirituelle par la réconciliation avec Dieu. Et un jour de la mort physique par la vie éternelle, quand le mortel aura revêtu l'immortalité. Et puis la délivrance de la mort, c'est aussi la délivrance de la crainte de la mort. La crainte de la mort qui est aussi un esclavage. C'est l'épître aux Hébreux qui nous en parle au chapitre 2. Ainsi donc, puisque ses enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, pareillement, parlant de Jésus, a partagé la même condition pour réduire à rien par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et, c'est le verset 15 qui nous intéresse ici, délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. La mort suscite la crainte. Qui pourrait prétendre le contraire? Pourtant, le croyant ne regarde plus la mort de la même manière, parce qu'il sait qu'elle a été vaincue, parce qu'il sait qu'un jour elle sera engloutie dans la victoire du Christ, parce qu'il sait qu'il est participant à cette victoire. C'est pourquoi il peut être délivré de la crainte de la mort. Délivré de la crainte parce que cette grande inconnue est vaincue et parce qu'elle est totalement connue de Dieu en qui le chrétien a mis sa confiance. Une petite précision ici pour dire qu'être délivré de la crainte de la mort ne veut pas dire que l'idée de la mort nous réjouit. Ne veut pas dire que nous nous réjouissons des souffrances qui pourraient et qui accompagnent souvent les temps de la fin. Ne veut pas dire que toute crainte liée à la mort et à tout ce qui précède disparaît comme ça, comme par enchantement. Cela veut simplement dire que nous savons où nous allons, auprès de qui nous allons, même si nous n'en connaissons pas le chemin. Nous savons que nous allons auprès de Dieu et nous savons que Jésus nous y précède pour nous y préparer une place. Pour bien faire, il aurait fallu ici aborder maintenant la question de la loi et de la délivrance de la loi, mais c'est tellement un vaste sujet que je n'entre même pas dedans. Donc ça serait peut-être pour une autre fois. Je fais l'impasse et puis il y a beaucoup de passerelles avec la délivrance du péché et de la mort. J'aurais pu aussi aborder la question de la délivrance de l'oppression de Satan, qui est une réalité que l'on voit beaucoup dans les évangiles et dont on parle en effet peu. Mais j'aimerais maintenant dire un mot sur la délivrance de l'épreuve. C'est mon troisième point et mon avant-dernier point. De quoi est-il question quand nous parlons de la délivrance de l'épreuve? Quand nous regardons les nombreux passages de la Bible où il est question de délivrance, nous devons constater que beaucoup d'entre elles, une très grande majorité d'entre elles, sont des délivrances physiques, des délivrances matérielles, des délivrances de l'épreuve, du danger, de la maladie, de la souffrance, des ennemis, de la mort, et j'en passe. Et c'est vrai dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Alors qu'en est-il pour nous? Dieu nous délivre-t-il aussi physiquement, matériellement? Dieu nous délivre-t-il toujours de l'épreuve? Oui, parfois Dieu délivre, directement, en intervenant dans nos vies, de façon miraculeuse, dans nos circonstances, dans notre santé. Il le fait parfois. Il en a la capacité. Mais il ne le fait pas toujours. Parfois, il permet l'épreuve qui dure. Parfois, il permet même l'épreuve qui dure jusqu'à la mort. Parfois, c'est lui-même qui nous conduit dans l'épreuve. Et nous avons récemment abordé la question de l'épreuve de la foi. Si Dieu permet parfois l'épreuve qui dure, alors qu'en est-il de la délivrance de l'épreuve ? Si Dieu ne nous délivre pas toujours physiquement, matériellement, dans nos circonstances et dans nos épreuves, sa délivrance est néanmoins toujours réelle. Toujours réelle par la grâce qu'il nous donne afin de tenir bon. Toujours réelle par sa présence dans nos vies qui nous soutient et qui nous console. Toujours réelle par la joie du salut qu'il renouvelle en nous. Toujours réelle par le secours de son esprit. Toujours réelle par la paix qu'il accorde au milieu de la tempête. Toujours réelle par tout ce qu'il nous donne et tout ce qu'il est dans nos vies afin que nous puissions tenir bon dans l'épreuve. Et c'est ainsi que nous pouvons dire avec l'apôtre Paul qu'aucune épreuve ne nous est survenu qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance et il ne permettra pas que nous soyons mis à l'épreuve au-delà de nos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une sortie pour que nous puissions la supporter. 1 Corinthiens 10:13. Oui, parfois Dieu délivre de l'épreuve et puis parfois il ne le fait pas. Et comme à l'apôtre Paul, il nous dit « Ma grâce te suffit » et il nous donne la grâce de la supporter. Et ça, c'est une forme de délivrance. Et tout cela continuera ainsi jusqu'au jour où les premières choses, les choses que nous connaissons ici-bas et qui font notre vie de tous les jours, jusqu'au jour où ces premières choses disparaîtront. Jusqu'au jour où nous serons pour toujours délivrés de tout ce qui nous blesse et nous fait mal ici-bas. À la fin du livre de l'Apocalypse, nous avons ce beau texte où il est question des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. « Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même qui est Dieu avec eux sera leur digne. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. » Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « De tout, je fais du nouveau. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » J'aimerais maintenant terminer en évoquant rapidement une quatrième et dernière délivrance. La délivrance de nos dépendances. Ce point, j'aurais pu l'aborder dans le premier point où j'ai parlé de la délivrance du péché. Par dépendance, j'entends tout ce qui nous enchaîne, qui peut nous enchaîner, tout ce qui nous domine ou qui peut nous dominer, tout ce dont on ne peut plus se passer, tout ce que l'on voudrait arrêter de faire sans y arriver. Il y aurait bien entendu beaucoup de choses à dire ici, et en particulier sur les réalités pathologiques de certaines de ces dépendances, mais je n'en ai ni les compétences, ni le temps. Il peut arriver à l'instar de l'aigle dans l'histoire du commencement, que nous nous retrouvions comme pris au piège de quelque chose qui nous enchaîne, qui nous entrave, qui domine notre vie. Quelque chose qui a souvent commencé par un plaisir et qui finit par nous détruire, par nous faire du mal. Vous le savez, il y a toutes sortes de dépendances. Des dépendances physiques, physiologiques, psychiques, psychologiques, affectives, etc. Souvent, les choses sont mêlées. Au rang des dépendances, il y a bien sûr toutes les drogues. La liste est longue. Des plus anodines jusqu'aux plus dures. Tous les médicaments, l'alcool, la cigarette. Il y a aussi toutes les dépendances liées à la nourriture, à ses excès ou à ses manques. Il y a aussi toutes les dépendances liées à la sexualité, à la pornographie en particulier. Il y a aussi toutes les dépendances liées aux jeux vidéo, aux jeux de hasard, aux paris en ligne qui se sont banalisés avec Internet. Beaucoup de choses se sont banalisées avec Internet. Il y a aussi toutes les dépendances liées à nos passions, à nos hobbies qui parfois finissent par prendre toute la place, envahir tout l'espace, finissent par dévorer les passionnés et les enchaîner à leurs passions. On pourrait rallonger cette liste assez sommaire. Quand on pense dépendance, on pense tout de suite à des choses extrêmes, comme la drogue, l'alcool, par exemple. Mais j'aimerais ici considérer la dépendance simplement comme tout ce qui nous domine, ou peut nous dominer. L'apôtre Pierre écrit cette phrase dans sa deuxième lettre, « Car chacun est esclave de ce qui le domine. » Pas besoin d'être drogué ou alcoolique pour être dominé par quelque chose. Je peux l'être par des choses bien plus anodines en apparence, même par le travail. Je peux être dominé par mes émotions et ne plus m'en sortir de la jalousie, de la haine, de la colère, de la rancune, de l'amertume. Tant de choses peuvent prendre le contrôle dans ma vie. Si le Fils vous affranchit, vous rend libre, vous serez réellement libre. Ce que j'aimerais dire ici est simplement le fait que la délivrance du péché que Jésus nous offre est aussi la délivrance de tout ce qui nous domine ou veut nous dominer. Et je redis ici que les aspects pathologiques sont importants ici. Et même si je ne les aborde pas, il y aurait bien des nuances à apporter dans certains domaines. Il y a des choses qui ne sont pas aussi simples que ça, et j'en suis conscient. Quoi qu'il en soit, la liberté que le Fils nous a acquise est aussi la liberté de tout ce qui nous domine. Car comment pourrais-je être libre en Christ si je suis enchaîné à quelque chose ? Si je suis dominé par quelque chose. J'aimerais témoigner ici des délivrances que Dieu m'a accordées il y a maintenant près de 30 ans. Je peux témoigner que si Dieu délivre du péché, délivre de la mort, parfois de l'épreuve, il brise aussi nos chaînes, les chaînes que nous nous mettons nous-mêmes à nos propres chevilles. Je me suis retrouvé à la fin de mon adolescence prisonnier de plusieurs choses, comme la drogue dont j'avais fait un compagnon de route quotidien. Et c'est ainsi que j'en suis venu à prendre de l'héroïne. Et j'étais sur la corde raide. Et c'est sur cette corde raide, c'est à cette roulette russe que j'ai joué pendant de longs mois. De longs mois pendant lesquels je me détruisais petit à petit. J'étais aussi à ce moment-là un gros fumeur. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Et Dieu m'a fait grâce. C'est compliqué et simple à la fois. C'est pas le moment d'entrer dans les détails. Mais Dieu ne m'a pas seulement sauvé de mes péchés. Il m'a aussi sauvé de moi-même. Sauvé de ma folie et sauvé de tous mes esclavages, sauvé certainement d'une mort certaine. Il a brisé mes chaînes et m'a libéré de ces entraves-là. Une liberté qui a été radicale pour certaines choses, miraculeuse, instantanée. Ce fut le cas pour l'héroïne. Et puis une liberté qui a demandé des efforts de longue haleine, et je pense ici à la cigarette. La cigarette, il y a eu tant de tentatives et tant de rechutes. Mais au bout, Dieu m'a délivré. Que la délivrance soit instantanée ou pas, ça ne m'appartient pas pour les délivrances dans nos vies, mais je peux témoigner en tout cas de ce que j'ai vécu, et c'est réel. Dieu est vraiment celui qui peut briser nos chaînes, toutes nos chaînes. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour beaucoup d'entre nous, et je ne le remercierai jamais assez. Alors, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi de vous poser cette question. Y a-t-il des choses dans votre vie qui vous enchaînent aujourd'hui, qui vous dominent, qui font de vous un esclave de quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer? Je ne sais pas comment Dieu s'y prendra. Je ne sais pas s'il agira miraculeusement ou alors s'il vous demandera votre participation et des efforts qui devront durer un certain temps. Mais je sais qu'il a le pouvoir, la capacité et la volonté de vous délivrer par le Christ de toutes vos chaînes, de tout ce qui vous domine. Jésus est celui qui peut briser nos liens. Les chaînes du péché, de la dépendance, de la mort et de tout ce qui nous entrave. Il est le libérateur avec un grand L, le Dieu des délivrances. Il est le Seigneur. Et le jeu de mots était trop beau. Il est mon Seigneur dont la pince coupe toutes les chaînes. Retenez ça. Pourquoi ne pas vous engager aujourd'hui sur ce chemin de liberté? C'est un chemin. Un chemin qui sera peut-être court, gloire à Dieu. Un chemin qui sera peut-être long et fait de beaucoup d'efforts, mais gloire à Dieu aussi, parce qu'au final, ce sera pour votre bien et pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.